Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est le roi des détectives qu'a invité Franck Ferrand cet après-midi, ou plutôt son créateur, ou plutôt le biographe de son créateur. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous parlez par énigme, ce qui convient assez bien au sujet d'aujourd'hui. En effet, j'ai invité Emmanuel Lebray, biographe d'Arthur Conan Doyle, à venir nous parler de Sherlock Holmes et du reste. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai aussi à la question d'Alexis, qui nous écoute depuis le Mexique. Ah ça, c'est le miracle des podcasts. Bonjour Alexis, il souhaite savoir pourquoi le dollar est représenté par un S et non pas par un D? Et puis aussi, accessoirement, pourquoi les billets de dollars sont verts? Autant de questions pour Sherlock Holmes et pour le docteur Watson.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Bienvenue à Undershaw, dans le Surrey. Nous sommes au sud-est de l'Angleterre et c'est dans cette très jolie petite ville et dans une belle demeure victorienne que réside habituellement Arthur Conan Doyle. Nous sommes en juillet 1901 et la consigne a été passée de ne pas déranger l'auteur. Et il n'a d'ailleurs pas touché au plateau repas qu'un maître d'hôtel a déposé devant la porte de son bureau. Sa fidèle compagne, Louise, ils se sont mariés il y a maintenant plusieurs années. Louise est très malade, vous savez, elle souffre de tuberculose, alors elle se repose au rez-de-chaussée. Les médecins affirment qu'elle pourrait mourir d'un moment à l'autre, malgré des séjours en Suisse et dans les Alpes autrichiennes, des séjours qu'elle a eu tendance à multiplier et qui lui ont fait du bien. Quant aux deux enfants, parce qu'il y a des enfants dans cette maison, Mary Louise, qui a 12 ans, et Arthur Lane Kingsley, qui en a 8 et demi, eh bien, disons qu'ils jouent dans une autre partie de cette grande et belle maison sous les yeux d'une discrète gouvernante. Conan Doyle, à l'époque, a 42 ans, et il est en train de mettre la dernière main à son nouveau roman, un nouveau roman de Sherlock Holmes. Je dis un nouveau roman, il n'y en a pas tant que ça dans l'œuvre de Conan Doyle, puisque au milieu d'une pléthore de nouvelles, vous ne trouvez en vérité que 4 romans. Et bien là, c'est le 3e, après Une étude en rouge, évidemment, et Le signe des 4. Ce roman, vous l'aurez reconnu, en tout cas si vous connaissez un peu l'œuvre du maître, c'est Le chien des Baskerville. La rédaction n'a pas été très facile. Il faut vous dire que le héros, Sherlock Holmes, est censé être mort 7 ans et demi plus tôt, à l'hiver 1893. D'ailleurs, au moment où l'auteur avait fait mourir son héros, ça a été une véritable volée de bois vert, une onde de choc, disons-le, à travers la population britannique. Enfin, comment le détective préféré des sujets de sa gracieuse majesté, comment ce détective dont des timbres officiels célébraient à l'époque déjà les aventures, avait-il pu ainsi mourir? Et comment surtout, Doyle, Conan Doyle, avait-il pu s'autoriser un tel forfait? C'était quasiment un crime de lèse majesté, il faut bien le dire. Conan Doyle, d'ailleurs, a gardé des lettres qui le traitaient de brute et d'assassin pour avoir fait mourir son héros dans les chutes de Reicherbach en Suisse. Seulement, Conan Doyle, pour autant, n'a pas ressuscité son personnage. Il est pour le moins soucieux de crédibilité, cet auteur, et il a simplement estimé que la nouvelle aventure qu'il est en train d'écrire, qu'il s'apprête à livrer au public, cette nouvelle aventure aurait pu se dérouler avant la disparition de son personnage. Qu'importe, Conan Doyle développe dans ce 3e roman toutes les recettes qui déjà ont fait le succès de son héros, ce goût pour l'enquête extrêmement minutieuse, les détails matériels propres aux romans de détection, mais des romans de détection bien particuliers, nous verrons qu'ils appartiennent à un genre particulier dans le genre plus général. C'est à travers tout cela une part de la réalité victorienne qu'il décrit également, et de la société de son temps, avec un sens bien particulier de la narration. C'est agréable, évidemment, et c'est pratique d'avoir un narrateur qui raconte les faits et gestes du héros. Il faut voir à quoi il ressemble, Conan Doyle. Il a un peu l'allure d'un viking, si je puis dire, avec sa face ovale et ses traits un peu aplatis. Nous y viendrons tout à l'heure, bien entendu. Conan Doyle lisse sa moustache et il est en train de terminer, au moment où je vous parle, ce qui va devenir son chef-d'œuvre, peut-être, ce chien des Baskerville. Quelques mois plus tôt, après avoir été en Afrique du Sud pour participer à la guerre des Boers qui opposait les Britanniques aux deux principales républiques boures indépendantes, un voyage qui, entre parenthèses, l'avait complètement épuisé, Conan Doyle est allé se ressourcer dans le Norfolk avec un ami journaliste. Cet ami s'appelait Fletcher Robinson. Lui aussi, d'ailleurs, était l'inventeur d'un détective. À l'époque, c'était quasiment devenu un sport national. Et ils ont ensemble visité, à travers les brumes, les tourbières et les landes du Devon. C'est au cours d'une de ces promenades un peu humides, un peu glaiseuse, que Fletcher Robinson a suggéré à Conan Doyle d'écrire sur la légende ancienne d'un grand chien noir qui hantait les Landes. Ah, ça, c'était un beau point de départ. Et du reste, Conan Doyle n'a pas longtemps hésité. Il faut vous dire que quelques années plus tôt, il avait écrit une nouvelle, The King of the Foxes, où il était déjà question d'un grand loup de Sibérie. Il aimait bien ce genre de figure canine, pour ne pas dire même de loup, tout simplement. Alors, une fois rentré dans sa demeure du Surrey, eh bien, Conan Doyle s'était mis au travail. Il a choisi le nom des personnages, le nom des Baskerville, c'est tout simplement le nom du jardinier de son ami Robinson, Henry Baskerville. Il s'est inspiré, évidemment, comme il le fait à chaque fois, de tout ce qu'il a vu, du climat, de ce Devon si particulier, de ces landes battues par les vents. Et puis, il a cette imagination aussi qui vient au secours d'un sens de l'observation tout à fait hors du commun et qui fait de son héros, Sherlock Holmes, un enquêteur moderne. Le détective, vous le savez sans doute, mène des enquêtes très approfondies dans lesquelles le moindre objet est source de toutes sortes de développements et de réflexions. Dès le début, d'ailleurs, du chien des Baskerville, Conan Doyle annonce la couleur. La découverte d'une canne ouvre le roman et donne lieu à une véritable expertise de la part de Holmes. Ça, c'est toujours très, très frappant, c'est toujours très spectaculaire de le voir à l'œuvre, ce cher Holmes. Lisez la date sur la canne. « Ainsi, votre médecin, grave entre deux âges, mon cher, » il s'adresse à Watson, bien entendu, « s'évanouit en fumée, et à sa place, nous voyons apparaître un garçon de 30 ans, aimable, modeste, distrait, et possesseur d'un chien que je dépeindrais vaguement plus grand qu'un terrier et plus petit qu'un mastif. » Ah oui, là, évidemment, tout le monde reste bouche bée. Conan Doyle s'est beaucoup amusé, on le sent, à écrire ce roman. Quand son héros analyse une lettre de menace envoyée à Sir Henry Baskerville, il constate que les lettres ont été découpées dans le Times. Entre parenthèses, c'est le journal évidemment que lit Conan Doyle lui-même. Voilà ce que dit Sherlock Holmes. « Pouvoir reconnaître les uns des autres les caractères d'imprimerie, voilà la science la plus élémentaire d'un expert en crime. » Néanmoins, comme toujours, Conan Doyle ne fait pas de Sherlock Holmes un super-héros. Il est simplement un homme particulièrement intelligent, particulièrement observateur et j'ajouterais particulièrement bien secondé.
Un extrait de la bande originale du film Sherlock Holmes, dont vous nous parlez cet après-midi, Franck.
Alors dans ce roman, Le chien des Baskerville, Holmes demande à son cher compagnon Watson, notre narrateur, de se rendre au château des Baskerville et de lui envoyer des rapports régulièrement. Holmes envoie même un jeune homme de 14 ans faire le tour des hôtels de Londres afin de retrouver, vous savez, le fameux exemplaire du Times dont les lettres auraient pu être découpées pour constituer la lettre de menace envoyée à Sir Henry. Dans chaque hôtel, le concierge te renverra au garçon de hall, dit-il, auquel tu donneras un shilling. Je te remets encore 23 autres shillings. Probablement dans 20 hôtels sur 23, on te répondra que le contenu des corbeilles de la veille a été jeté ou brûlé. Dans les 3 derniers hôtels, on te conduira à un tas de papiers, parmi lesquels tu devras rechercher cette page du Times. Tu as très peu de chances de la retrouver. Voici 10 shillings de plus pour faire face à l'imprévu. Envoie-moi à Baker Street. Avant ce soir, le résultat de tes investigations. Et maintenant, Watson, procurons-nous par télégramme l'identité du cocher qui conduit le cab de 1704. C'est très intéressant tout ça parce que ça nous amène tout simplement au cœur même de toute une époque et de tout un mode de vie. D'abord, voyez à quel point la monnaie, le petit personnel, les pourboires sont présents. Nous sommes bien dans la bourgeoisie, qu'on le sache. Rien à voir avec d'autres héros du même genre de roman qui appartiendront peut-être davantage à l'aristocratie. Là, on est dans une bourgeoisie qui, plus est, connaît le monde et vit sur ce qu'on pourrait appeler l'expérience du monde. Ça, c'est très frappant chez Sherlock Holmes. On a l'impression qu'il a déjà tout vécu 10 fois et que pour l'avoir vécu et retenu, il est capable d'anticiper, d'imaginer, de se projeter dans le futur. Ce qu'il fait, en l'occurrence, avec ce garçon, ce jeune homme qu'il envoie dans tous les hôtels de la ville. Holmes, disons-le, est aussi, et ça va jouer un rôle essentiel dans la notoriété du personnage et dans le succès de ses aventures, il est aussi un personnage, un enquêteur moderne. En quelque sorte, on pourrait presque dire qu'il préfigure ce que nous appelons la police scientifique. Après tout, il analyse les empreintes, on pratique des autopsies dans les nouvelles et dans les romans de Conan Doyle. Même, et ça on l'a souvent raconté, même les cendres des cigares sont analysées. Conan Doyle va jusqu'à citer dans certains de ses travaux Alphonse Bertillon, qui est le père universel, grand criminologue français de la préfecture de police, vous savez, qui était le père de la police scientifique et notamment de l'anthropométrie. C'est lui qui avait eu l'idée d'analyser les fameuses empreintes digitales. Et c'est grâce à tous les indices qu'il récolte que Holmes peut faire ses fameuses déductions. Il peut être certain que la lettre envoyée à Sir Henry a été écrite dans un hôtel. Et comment est-ce qu'il fait pour savoir ça? Bien parce qu'il a vu que l'encre, c'est une encre dans laquelle on a mis un peu d'eau et que donc l'hôtelier probablement a mégoté sur la qualité de l'encre. Puis la plume est de mauvaise qualité du reste. Quant aux caractères qui ont été découpés dans le Times, ils veulent dire que nous avons affaire à un homme cultivé mais qui essaie, par la découpe assez fruste qu'il a pratiquée dans le journal, de passer pour un rustre. Vous voyez ce qu'on peut déduire d'éléments par ailleurs tellement matériels. Alors, où Conan Doyle lui-même va-t-il trouver ce qu'il fait imaginer, ce qu'il fait déduire plus exactement à son personnage, à Sherlock Holmes? Eh bien, disons-le, cet homme est doué d'un sens de l'observation unique, qui va d'ailleurs se traduire dans un sens de la description, ça on va y venir dans un instant, sur la qualité littéraire de l'écrit, et puis aussi d'une imagination débordante. Il a été médecin, ne l'oublions pas, il a été habitué à faire de la déduction et de l'induction, c'est toute une partie de sa vie ça. Il a fait des études de médecine, il a pratiqué ce métier pendant des années, après tout Watson à Kitnir, il a même été ophtalmo à une époque avant de se tourner définitivement vers la littérature. Holmes ressemble d'ailleurs beaucoup au docteur Joseph Bell, médecin et professeur de médecine écossais. Les noms de Holmes et Watson sont empruntés d'ailleurs à deux médecins. Timothy Holmes, d'une part, qui était un grand chirurgien londonien très connu à l'époque, et puis Patrick Heron Watson, qui de son côté était un brillant diagnosticien. Mais l'expérience de la médecine ne fait pas tout. Conan Doyle veut également aller plus loin en quelque sorte. Il veut mettre le maximum de détails pour rendre ses enquêtes le plus réaliste possible. Sherlock Holmes est minutieux et vous savez qu'il vit au milieu des détails. On dit que le diable se cache dans les détails. En l'occurrence, Holmes se complaît dans les détails. Ses personnages sont très bien décrits. Je vous donne un exemple. Voilà comment Henry de Baskerville est décrit. Il y avait de l'orgueil, de la vaillance et de la force sous ses épais sourcils, ainsi que dans ses narines mobiles et dans ses yeux couleur de noisette. Oh, il y a sans doute là une forme, sans doute, d'écriture un peu automatique, mais toujours élégante, toujours précise et même assez raffinée. Conan Doyle a par ailleurs très bien décrit le château des Baskerville. Nous examinâmes curieusement les hautes et longues fenêtres aux vitraux multicolores, les lambris de chêne, les têtes de cerf et les armes accrochées au mur, le tout triste et sombre sous la lumière atténuée d'une lampe accrochée au milieu du plafond. Et ça, ça nous donne en quelque sorte le secret de ces romans et du succès qui les accompagne. C'est évidemment l'atmosphère. Que serait Sherlock Holmes? Que seraient ses aventures sans cet extraordinaire et si britannique sens de l'instant, d'une certaine manière? Un instant qui finit par être tellement typé et tellement particulier qu'il pourrait confiner à l'infini et à l'éternel. Et puis il y a donc ce cadre, toujours d'épais nuages enveloppent le château, nous dit-il, soucieux d'alourdir encore l'atmosphère. Parfois ils se déchirent et laissent entrevoir les ondulations de la lande striées de minces filets d'argent, on a l'impression de les voir, ruisselets occasionnellement créés par la pluie dévalant sur le flanc raviné des collines. Il est certain que les amateurs de bonne littérature ou d'écriture soignée ne seront pas déçus et qu'ils se retrouveront là, chez eux, chez soi. Être chez soi, c'est peut-être là encore un des secrets de Conan Doyle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, au plus populaire des détectives Sherlock Holmes et à son créateur Conan Doyle.
Évidemment, tous ces romans n'auraient pas eu toutes ces nouvelles, surtout n'auraient pas eu le succès qui a été les leurs sans un très grand réalisme. En quelque sorte, on a l'impression d'y être. Et c'est ça sans doute que les Britanniques, dans un premier temps, et puis bientôt des lecteurs du monde entier, vont venir chercher dans les aventures de Sherlock Holmes. Il faut l'imaginer à sa table de travail, Conan Doyle, en train de relire, par exemple, le moment où le terrible chien des Baskerville pousse son cri strident dans la lande. Mais néanmoins, il faut l'imaginer aussi comme un bon sujet britannique continuant à vivre et vivre confortablement. Quelle vie mène-t-il? C'est l'une des questions que je vais poser à mon invité dans un instant. Et nous allons voir que finalement, les aventures de Conan Doyle sont presque aussi captivantes que celles de Sherlock Holmes, son personnage. Alors, tout ça est très contemporain aussi. Hein. Évidemment, nous, tout ça a été totalement patiné aujourd'hui. On a l'impression d'entrer dans l'histoire en ouvrant un roman de Sherlock Holmes. Mais à l'époque, on est dans l'actualité brûlante. Je vous parlais du Times, par exemple. C'est le grand quotidien de la bonne société britannique de l'époque. Un grand nombre de vieux londoniens sont cités dans les écrits de Conan Doyle. Et puis, les lieux, surtout. Hein. On est dans un certain nombre de repères quasiment incontournables, Oxford Street, Waterloo Station, Regent Street, Trafalgar Square, etc. Le lecteur, qu'il soit britannique ou non, du reste, peut assez facilement s'y repérer. Mais ce qui amuse le plus l'écrivain, ce sont les personnages, bien entendu, si proches des aristocrates de son temps, et qui, ne s'en cache pas, lui ressemblent sans doute un peu. Sir Henry, par exemple, Baskerville, est candidat du parti libéral pour les élections du Mid Devon. Il se trouve que Conan Doyle, lui aussi, a été candidat à la députation. Sans succès d'ailleurs. Baskerville a toutes sortes de domestiques, il a une fortune estimée à 740 000 livres. Quand je dis une fortune, c'est même une immense fortune. Il a beaucoup voyagé en Afrique du Sud, dans le Far West, au Canada, etc. au cours de nombreuses expéditions. Ben, là encore, c'est un peu Conan Doyle qui s'arrête volontiers d'écrire et qui voyage beaucoup. Comme son personnage, il a été en Afrique du Sud, plus précisément, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour combattre les bourgs. Aux côtés d'autres Britanniques. Et puis, tout en buvant quelques gorgées de thé, il faut imaginer Conan Doyle qui se remémore sa jeunesse du pôle Nord pendant 6 mois alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années et qu'il faisait des études de médecine jusque dans de tout autre contrée. Il se souvient aussi d'avoir été médecin à bord d'un paquebot qui transportait des passagers de Liverpool à l'Afrique de l'Ouest. Il se souvient de son voyage en Égypte qui a d'ailleurs été utilisé dans plusieurs nouvelles de Sherlock Holmes. Il faut vous dire que Sherlock Holmes a été traduit dans toutes les langues, y compris l'arabe à l'époque. Je précise bien à l'époque. Aujourd'hui, ça n'a rien d'étonnant. Mais on est là au tournant du XXe siècle. Tout ça, c'est un temps, c'est un climat, c'est une ambiance d'une certaine manière. C'est ce monde de Sherlock Holmes dans lequel Conan Doyle nous fait entrer. Je vous ai dit qu'il était très précis dans ses descriptions. Il faut savoir qu'il aime la peinture, par ailleurs. Il est passionné de peinture. D'ailleurs, à un moment, il fait dire à Sherlock Holmes, s'adressant à Watson, En attendant l'heure de nous présenter à Northumberland Hotel, nous entrerons dans une des expositions de peinture de Bond Street. Et puis, comme Conan Doyle, il aime sortir dîner dans les restaurants élégants, il aime se rendre au théâtre, il dit un jour, quand je dis « il », c'est Sherlock Holmes qui dit à Watson « Après ces quelques semaines de dur labeur, je crois, mon cher Watson, que nous pouvons nous octroyer un peu de distraction. Ce soir, j'ai une loge pour les Huguenots. Soyez prêts dans une demi-heure, nous nous arrêterons pour dîner en route chez Marcini. » Les restaurants, le théâtre, une agitation somme toute assez lointaine de la grande et calme demeure du Surrey où j'ai posé tout à l'heure notre auteur. Le narrateur, vous l'aurez compris, des aventures de Sherlock Holmes, c'est le docteur Watson, bien entendu. Là encore, un double un peu, un autre double, si je puis dire, un double décalé de Conan Doyle. En fait, Conan Doyle est habitué à ce qu'on lui pose constamment la question « Est-ce que vous ressemblez plutôt à Watson ou plutôt à Sherlock Holmes ?» Il s'en tire généralement par une pirouette. Vous savez, quand on a l'habitude de répondre aux mêmes questions d'intervieweurs, ça devient presque un jeu et c'est assez facile. Watson relate les rapports qu'il a fait parvenir à Holmes, un peu comme un journal de bord, mais il préfère changer la manière dont Watson va compter les événements. Je vous cite un extrait du Chien des Baskerville. « Jusqu'ici, j'ai cité certains passages des rapports que j'adressais presque journellement à Sherlock Holmes. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point de mon récit où je me vois forcé d'abandonner ce procédé et d'avoir recours à mes souvenirs personnels, aidé en cela par le journal que j'ai tenu à cette époque. Quelques extraits me remettront en mémoire les détails de ces scènes fixées dans mon esprit d'une manière indélébile. » Ce qui apparaît ici, c'est la substance même du roman de détection, c'est-à-dire le jeu sur les différents registres des rapports, des récits, une anamnèse, parfois l'intervention de la plus grande subjectivité au milieu de la description la plus objective. Évidemment, Conan Doyle s'amuse avec les différents registres d'écriture. Il s'amuse non seulement avec le style, mais avec la voix qu'il emploie. Il s'amuse avec son lecteur, autant dire qu'il s'amuse avec nous. Bonjour Emmanuel Lebray.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu nous parler, j'allais dire, de ces deux personnages, le créateur et la créature. Avec vous dans un instant, nous allons nous intéresser peut-être un peu plus au créateur lui-même.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Conan Doyle, avec votre invité Emmanuel Lebray, écrivain et conférencier, auteur de Conan Doyle contre Sherlock Holmes aux éditions du Moment.
Je parlais dans mon récit du Chien des Baskerville. Il faut vous dire que Conan Doyle va faire paraître son texte dans un premier temps sous forme de feuilleton dans le Strand de août 1901 à avril 1902. C'est un peu plus tard que l'image que nous avons du personnage qui nous fait plutôt penser aux belles années aux grandes années du règne de Victoria. On est plutôt dans les années 80 et 90 avec Sherlock Holmes.
Oui, on est beaucoup plus dans cette période victorienne à laquelle Conan Doyle est d'ailleurs lui-même très attaché. Ce sont en quelque sorte ses racines traditionnelles. Mais le Chien des Baskerville possède une autre particularité, c'est qu'en fait c'est une histoire qui est antérieure à sa disparition, et donc c'est un sursis très important pour ce personnage.
C'est-à-dire qu'on ressuscite le temps d'une aventure, on va ressusciter Sherlock Holmes.
Voilà,
en fait.
Alors Conan Doyle a beaucoup de pression morale et psychologique. Le président Theodore Roosevelt lui-même va demander à Conan Doyle si il est utile peut-être de faire renaître ou non ce grand détective.
Alors Conan Doyle est un personnage sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Je vous propose de revivre en quelque sorte son existence dans la deuxième partie de cet entretien. Avant cela, peut-être un mot de son incroyable succès. Il est traduit de son vivant en des dizaines de langues. C'est incroyable.
Oui, l'œuvre aujourd'hui est traduite en plus de 110 langues.
Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, déjà à l'époque.
Mais déjà à l'époque. Les premières aventures vont être traduites au début du XXe siècle en langue française. C'est déjà l'indice d'un succès. Cela inspirera indirectement d'autres auteurs. On pense à Maurice Leblanc, par exemple, avec le personnage d'Arsène Lupin. Leblanc étant lui-même un médecin dermatologue, ne l'oublions pas. Ce sont toujours des médecins qui ont double métier et double vocation. Et puis, il y a une extraordinaire popularité par le fait que ce journal, donc cette petite revue, le Strand, paraît à l'époque, et c'est le début du succès de Conan Doyle, avec cette histoire qui montre un drame en Bohème, à près de 300 000 exemplaires. Donc c'est un tirage très considérable, d'autant que le peuple qui achète cet opuscule le prête à d'autres personnes. Donc on peut soupçonner 1 million de lecteurs par nouvelle.
Extraordinaire.
Et à l'époque, Conan Doyle cherche un format qui corresponde à un trajet en train pour rejoindre la grande banlieue. Donc ne pas excéder en quelque sorte une vingtaine de pages pour que l'on ait à la fois l'énigme, le pic de l'angoisse et de l'inquiétude autour du mystère, et puis la solution arrivée à bon port.
Donc on est bien dans une écriture qui est fabriquée sur mesure pour plaire au public. On n'est pas du tout là dans l'expression de sentiments profonds ou d'une démarche personnelle. On est dans la mise au service d'un savoir-faire pour satisfaire, amuser, intriguer un public d'amateurs.
Oui, absolument. D'autant que Conan Doyle, de façon très pragmatique et poussé par des intérêts matériels et financiers, puisqu'il sort d'un milieu modeste, son père, rappelons-le, gagne environ 250 livres par an et chaque nouvelle va lui être payée une somme dérisoire, environ 25 livres. Donc, très rapidement, le succès faisant, la somme va doubler, on va arriver à 50 livres. Et puis, après le succès du Chien des Baskerville que vous citiez, on arrivera à 45 000, 75 000 livres.
Ah, ça change tout.
Ça change tout. Et donc, ce qui peut expliquer ensuite la renaissance de
Sherlock Holmes. On va y venir tout à l'heure, mais il est né en 1859.
Le 22 mai, oui.
Et il est mort au milieu des années...
Il est mort le 7 juillet 1930, à 8h30
voilà, c'est
matin.
Ça. Donc, très tard, en fait. Hein, il a été le contemporain d'un certain nombre des grands auteurs de romans policiers.
Oui.
Est-ce qu'au moment où il publie ses premières nouvelles, le roman de détection, comme on l'appelle, est déjà à la mode ? Est-ce que ça fait déjà partie des mœurs britanniques, si je puis dire, Emmanuel Lebray ?
Pas exactement, dans le sens où il y a surtout ce qu'on peut appeler des petites histoires qui sortent sous forme de fascicules, mais qui sont un peu en quelque sorte de la littérature très très populaire, si ce n'est un petit peu populiste. Et donc lui va pour la première fois imposer à la fois un format, mais aussi un style littéraire dans lequel la narration joue sur plusieurs registres.
Cette narration, elle est très savante chez lui. D'emblée, il est capable de faire comprendre au lecteur, lorsqu'on est dans un dialogue direct ou dans un dialogue rapporté, lorsque ce dialogue est rapporté de manière, entre guillemets, technique ou au contraire fantasmée, etc. Et il n'a même pas besoin de le dire, il le fait sentir. Ça, c'est quand même la force de l'auteur.
Ah, c'est la force de l'auteur, d'autant que Conan Doyle a aussi une autre particularité, c'est qu'il est particulièrement doué dans le domaine linguistique, puisqu'il a été formé chez les jésuites. Et donc, il a une très bonne connaissance du latin, une très bonne connaissance du grec, ce qui est renforcé par ses études de médecine. Et il a également fait un séjour à Feldkirch lors de ses études pour apprendre la langue allemande. Et cet ensemble-là lui donne une sensibilité qui est doublée d'un côté extrêmement francophone. C'est un homme qui lit Jules Verne dans le texte.
Au moment des vacances de Noël, nous avons consacré une émission à Agatha Christie et à ses deux personnages principaux. Et concernant Hercule Poirot, nous avions constaté qu'à mesure qu'on avançait dans le temps, Hercule Poirot s'éloignait de ce qu'on appelle les détectantes, c'est-à-dire les éléments, les indices purement matériels et scientifiques, pour aller vers des indices de plus en plus psychologiques. Et dans les derniers romans d'Agatha Christie, dans les années 60, on n'est plus que dans la psyché.
Absolument.
Et dans la psychologie. Bon, on est très loin de ça avec Conan Doyle. Lui reste extraordinairement matériel, pour pas dire matérialiste.
Absolument. C'est un scientifique avant l'heure, et donc cela s'explique en partie par sa formation médicale, ainsi que par sa spécialité qui est l'ophtalmologie, donc l'art véritablement de bien voir,
ça
tombe bien. Et en plus de cela, il est un petit peu comme Jules Verne, c'est-à-dire qu'il lit beaucoup, et notamment toutes les nouveautés qui touchent le domaine de la science.
Il est donc au courant de tout ce qui se produit, de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'invente.
Absolument.
Et Jules Verne travaillait, on disait, des après-midi entiers à la bibliothèque d'Amiens pour écrire le lendemain matin le nouveau chapitre des aventures de ces personnages. Et là, en l'occurrence, on peut dire qu'avec Conan Doyle, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que les journaux scientifiques sont mis à contribution.
Oui, et puis il faut se souvenir...
Et les journaux de police aussi, enfin tout ce qui est publication professionnelle.
Absolument. Et il faut se souvenir que Jules Verne, par exemple, dans L'île mystérieuse, n'hésite pas à donner la formule de la nitroglycérine. L'ouvrage est un peu subversif pour son époque. Et Conan Doyle, de son côté, va en parallèle de ses écrits, être un personnage extrêmement sportif, s'intéressant de très près aux armes notamment, qu'il manie avec adresse. Et il sera même particulièrement doué en tant que détective privé, puisque souvent Scotland Yard n'hésitera pas à faire appel à ses talents.
Alors je me suis tout à l'heure moqué des journalistes qui, au tout début du XXe siècle, demandaient à Sir Arthur, à Conan Doyle, s'il était plutôt Watson ou plutôt Sherlock Holmes. Eh bien, je vais faire comme eux et je vais vous poser la question à vous, Emmanuel Lebray. À qui ressemble-t-il le plus ? Au narrateur, à Watson, qui lui-même est médecin, ou à cette espèce de personnage un peu étrange de Sherlock Holmes ?
Je dirais que Sherlock Holmes, c'est sans doute son ombre, au sens psychanalytique du terme, alors que le docteur Watson représente un petit peu le médecin désenchanté de sa carrière professionnelle.
Un persona, si on devait rester dans le jungisme.
Absolument, absolument, un persona, voilà. Et Conan Doyle s'est inspiré, nous le savons, de plusieurs sources pour créer ce personnage. Il y a tout d'abord les écrits d'Edgar Allan Poe, qui ont été traduits relativement récemment par Charles Baudelaire pour les Français. Et donc des nouvelles comme le Scarabée d'or, par exemple, ou cette lettre présentée comme une sorte d'énigme à trouver alors qu'elle est sous les yeux du narrateur et de l'observateur. Et puis, il y a le fait que Edgar Allan Poe s'est lui-même inspiré des mémoires de Vidocq, qui sont parues en 4 volumes.
Bien sûr.
Ces mêmes mémoires vont inspiré la création en France de l'inspecteur Lecoq, accompagné du père Absinthe. Il y aura également et surtout le docteur Joe Bell, donc un des professeurs de Conan Doyle, qui aura été sans doute son inspirateur principal.
Alors il faut s'empresser de souligner que la mécanique fonctionne toujours. C'est-à-dire qu'un siècle plus tard, on lit les écrits de Conan Doyle avec autant d'intérêt et que, évidemment, les déductions de Sherlock Holmes, qui quand même use un peu des drogues, hein, des substances illicites, si je puis dire.
Oui, la solution à 7% notamment, qui est une solution de cocaïne, qui est décrite d'ailleurs dans un des premiers romans de Conan Doyle et qui est en quelque sorte un remède contre la monotonie et l'ennui pour le détective.
Alors en tout cas, inspiré de telle ou telle manière, les déductions de Sherlock Holmes sont toujours aussi passionnantes. Mais, disons-le, les enquêtes ont un petit peu vieilli, ça aurait tendance à nous tomber un petit peu des mains aujourd'hui, à moins d'être un vrai passionné. En revanche, ce qui reste extraordinaire, c'est le regard porté sur cette société victorienne qui n'en finit pas de nous fasciner. Il y a un aspect documentaire dans cette littérature.
Absolument. Il y a un véritable aspect documentaire qui est, je dirais, toute l'ambiance d'une époque, des quartiers de Whitechapel, en passant par la lande de Dartmoor.
Whitechapel, c'est les quartiers très sombres.
Oui,
hein,
ce sont les quartiers très sombres. Populaires. Voilà, c'est la partie ténébreuse de l'ère victorienne. Oui. Je citais dans mon livre le fait qu'à une époque, on a retrouvé 94 personnes qui ont été jetées dans la Tamise, qui avaient été égorgées pour la plupart. Et donc, ce n'était pas non plus qu'une simple ambiance. C'était une réalité de la médecine et de la police scientifique de l'époque.
Alors, on comprend que nous, ça nous passionne de voir comment on se déplaçait, comment on se nourrissait, etc. Cette époque, mais qu'y avait-il là d'intéressant pour les lecteurs contemporains de Conan Doyle ?
Eh bien, il faut savoir que la société anglaise est aussi une société fondée en partie sur le puritanisme. Nous ne sommes plus sous l'époque de Cromwell, mais quand même. Et de fait, il y a les choses qui se disent et qui ne se disent pas, qui se font et qui ne se font pas. Et donc, c'est extrêmement agréable pour toutes les couches de la société de voir qu'en fait, les gens qui apparemment appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la noblesse ou la bourgeoisie se révèlent être des assassins monstrueux et que des gens issus du peuple, parmi les plus simples et les plus pauvres, peu scolarisés, révèlent des qualités humaines qui touchent le cœur de l'ensemble de la population.
Eh bien voilà, la clé, vous l'avez trouvée et vous venez de nous la livrer.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Emmanuel Lebray, écrivain et conférencier, auteur de Conan Doyle contre Sherlock Holmes aux éditions du Moment.
J'ai beaucoup parlé depuis le début de cette émission de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont loin d'occuper l'ensemble de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Très loin, Emmanuel Lebray.
Ah oui, de très loin, puisque en fait, c'est le sommet de l'iceberg, c'est la partie la plus populaire pour le grand public de l'époque, mais aujourd'hui également. En réalité, il y a à peu près 218 pièces, romans, pièces de théâtre, nouvelles qui ont été écrites par Conan Doyle, dont notamment beaucoup de contes, contes touchant les pirates ou touchant la boxe, contes très variés s'il en est. Et en fait, Conan Doyle va chercher tout au long de sa vie à se débarrasser de ce héros encombrant qui est Sherlock Holmes, dans la mesure où, pour
tout
lui,
le monde,
plus...
Mais oui, tout le monde lui réclame tout le temps, évidemment, de Sherlock Holmes.
En fait, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire l'ensemble de l'œuvre holmesienne, c'est 56 nouvelles, dont les 33 dernières ont été écrites à partir de la résurrection, sous la pression, je dirais, de tout le monde, que ce soit la famille, les lecteurs ou bien les politiques.
Et puis 4 romans seulement.
Et 4 romans seulement, voilà. Donc c'est une soixantaine de pièces sur environ 218 publications.
Et voilà. Alors que sont-elles ces autres publications? De quoi nous parle Conan Doyle lorsqu'il ne s'intéresse pas à l'homme à la houppelande?
Alors c'est un grand lecteur de Walter Scott. Donc il a été élevé, je dirais, au biberon d'Ivanhoé. Et il a le projet de formuler, de retracer en quelque sorte ce que sont les véritables héros de l'histoire d'Angleterre. Et pour ce faire, il va écrire par exemple La Compagnie Blanche, qui relate le miracle des grands archers anglais, ces personnages ayant des arcs en if, capables à 75 pas de percer la cuirasse la plus serrée. Et donc Conan Doyle va, à travers tout un tas de traditions et de légendes datant du Moyen-Âge, que ce soit en France ou en Angleterre, c'est un lecteur Philippe de Comines par exemple...
Oui, passionné hein, par tout ce...
Il est passionné.
Cette littérature médiévale, disons-le.
Médiévale, c'est également un grand spécialiste de l'œuvre de Napoléon. C'est un spécialiste de l'époque de Louis XIV. Mais en même temps, nous l'avons vu, un grand sportif.
Il va produire lui-même des récits napoléoniens.
Il va écrire beaucoup de récits napoléoniens. Et donc, ces récits vont en quelque sorte avoir un succès d'estime. C'est tout juste si les lecteurs ne vont pas acheter, en quelque sorte, ses ouvrages pour lui faire plaisir. Et alors
c'est
que pour
terrible,
lui,
ce que
bah oui,
dites.
C'est terrible. Hein. C'est un petit peu comme le Cromwell d'Honoré de Balzac que peu de gens lisent aujourd'hui. Voilà.
Non. Qu'on achetait effectivement parce qu'il avait demandé beaucoup de travail à son auteur.
Absolument.
Vous nous disiez que Conan Doyle aimait le sport.
Alors Conan Doyle aimait beaucoup le sport. Donc c'était d'abord un boxeur semi-professionnel. Hein. Les journalistes français du début du siècle le nommaient le bon géant. Donc c'était un homme extrêmement pointu dans le domaine de la boxe, qu'il avait appris chez les jésuites, et puis aussi dans son enfance, dans les rues d'Édimbourg, et à tel point que lors d'un championnat du monde...
Mais dans les rues, parce qu'encore une fois, une enfance assez modeste, très modeste même, disons-le.
Oui, une enfance très modeste dans les faubourgs d'Édimbourg, Édimbourg qui est une ville un petit peu mythique, il ne faut pas oublier qu'elle était construite sur un volcan endormi, et donc dans les quartiers bas de la ville, eh bien, vivaient ses parents. Sa mère était d'origine irlandaise, elle appartenait à une descendance, à une branche des Plantagenêts. Mmh. Et son père était en quelque sorte un administratif appartenant au monde de l'architecture et des beaux-arts, qui était également un peintre et un professeur de dessin.
Oui, donc des gens raffinés, sa mère parlait le français.
Oui, sa mère avait étudié le français durant 5 ans. Elle lisait la revue des deux mondes en préparant le porridge et donc elle était spécialisée sur l'étude des blasons. Elle était particulièrement attachée à ses origines nobles.
On est dans une de ces familles modestes où la réussite est essentielle. On pourrait presque dire que tout tourne autour de ça. Et là, la réussite, elle passe par les études de médecine pour jeune Arthur. Hein.
Alors Arthur, qui était surtout dans l'idée d'être le nouvel Ivanhoé, que ce soit... de visu, Conan Doyle dira « Si l'on adopte l'idée de la réincarnation, il est à peu près certain que dans une autre vie, j'ai dû être un fiefé batailleur. » Donc Conan Doyle va essayer de trouver sa voie, son but étant avant tout de sauver la veuve et l'orphelin. Donc c'est sous l'influence d'un pensionnaire de sa maman, le docteur Weller, qui est son aîné de 6 ans, qu'au final il va s'orienter vers la médecine en se disant après tout, pourquoi ce métier-là plutôt qu'un autre? C'est un métier dans lequel on peut faire du bien.
Il a des frères et sœurs?
Alors, il a 10 frères et sœurs, lui c'est le second. Il y en a 7 qui survivront, puisque les conditions de vie de l'époque sont très très difficiles. Hein. Entre la peste, le choléra et beaucoup de choses qui peuvent exister, notamment à Édimbourg, puisqu'il n'y a pas de salubrité publique. Donc Conan Doyle va essayer de s'extraire de tout cela et il va comprendre très rapidement que sa scolarité est en quelque sorte l'œuvre de sa famille.
Et oui.
Voilà. Donc tout le monde s'est cotisé en quelque sorte pour lui payer des études supérieures. Il se doit d'être à la hauteur. Et très vite, lors de ses études de médecine, lors de la seconde et troisième année, comme il est de coutume, eh bien, on fait soit des remplacements à la campagne, par exemple. Il aura l'occasion de tomber sur quelques escrocs, d'ailleurs. Et surtout, on peut faire une année dans la marine, où l'on peut, pour les campagnes, être très bien payé. Donc la perspective, au départ, était de faire la prestigieuse transatlantique. Mais en réalité, ce ne fut pas possible. Et Conan Doyle va donc se rabattre sur une campagne de pêche dans l'Arctique, pour la somme extrêmement importante pour l'époque de 50 livres, qu'il demandera à être réglé en pièces d'or, les cachant en quelque sorte dans sa houppelande pour que sa mère puisse, une à une, retrouver ses pièces lors de son retour au foyer.
Magnifique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez ce Conan Doyle, par ailleurs très sportif, très physique, vous nous avez dit batailleur, c'est un très bon tireur d'ailleurs.
Un très bon tireur, c'est un champion de cricket également. C'est un homme qui n'hésite pas, le cas échéant, à faire le coup de poing lors de certaines campagnes politiques. Par exemple, voyant qu'un député va être attaqué, eh bien, il se précipite et vient rosser trois ou quatre voyous qui essaient de se mettre au travers de sa route, venant ensuite réajuster sa redingote et reprenant le flegme britannique qui lui sied d'habitude.
Et comme tout bon britannique, il est à la fois sur la réserve et dans l'engagement. Ah. On a parlé des bourgs tout
Absolument.
À l'heure, de la guerre des bourgs en Afrique du Sud. Il va s'engager pendant la Première Guerre mondiale aussi,
oui,
alors qu'il n'en a plus besoin du tout, là, si
alors,
je puis dire.
C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il a 55 ans. Et donc à cette époque, on lui fait comprendre qu'il est un petit peu âgé, qu'il est un petit peu gros, que bref, on met en colère symboliquement Obélix. Et en réalité, il va trouver une solution pour essayer de contourner cette mesure de l'âge. C'est le même problème qu'avait rencontré en France l'écrivain Pierre Loti, qui voulait également s'engager et qui avait l'âge de la retraite. Donc Conan Doyle va réussir à être en quelque sorte utilisé par le ministère de la guerre en rédigeant au jour le jour une histoire de la Première Guerre mondiale qui paraîtra en 1920 en 6 volumes que j'ai eu le loisir d'avoir entre les mains, qui est absolument exceptionnel.
Mais alors la médecine, les combats, le sport, la boxe, tout ça, on voit le personnage se dessiner qui est un personnage de son temps et de son pays. Hein. C'est absolument. Véritablement le sujet britannique par essence. Mais comment vient la littérature dans tout cela ?
La littérature, elle commence très jeune, dans la mesure où dans un milieu pauvre et cultivé, eh bien, la littérature passe par les bibliothèques. D'ailleurs, dans son jeune âge, avant l'âge de 10 ans, sa maman est convoquée à la bibliothèque, où on lui fait remarquer qu'il est interdit de venir emprunter des livres plus de 2 fois par jour. Parce que Conan Doyle dévore tout ce qui peut lui passer sous la main. Et puis il va.
C'est presque une seconde nature à ce degré. Hein.
Oui, c'est une seconde nature. Et puis il va également, lors de ses études de préparation au collège préparatoire des Jésuites, il va tenir un petit journal qui s'appelle le Figaro de Stonyhurst, et dans lequel, eh bien, son talent déjà va être observé par l'un de ses oncles qui habite Paris, 65 avenue de Wagram, pas très loin d'ici. Et donc cet oncle Michael Conan. Eh bien, c'est lui qui va insuffler, qui va aider en quelque sorte son neveu en lui offrant des ouvrages choisis, en lui faisant découvrir de grands poètes, notamment liés à la Rome antique, comme Macaulay, par exemple.
Oui, et ça aussi, c'est tout à fait de son temps.
C'est tout à fait de son temps.
Est-ce que dans la préparation de son écriture, il est du genre enquêteur ? Est-ce que lui-même s'informe des méthodes, par exemple, des détectives, pour revenir à Sherlock Holmes ?
Alors, Conan Doyle a noirci des centaines de cahiers de notes. Tout l'intéresse et tout peut donner naissance à quelque chose. Par exemple, dans sa dernière partie de vie, quand il habite dans le Sussex, dans la petite ville de Crowborough, eh bien, dans la demeure de Windlesham, à proximité, on fait des fouilles archéologiques où on va trouver des empreintes d'animaux préhistoriques. Ces empreintes d'animaux préhistoriques, auxquelles il s'intéresse beaucoup en scientifique, vont donner naissance à un autre personnage très important, qui est le professeur Challenger, et qui va permettre d'écrire un livre assez fantastique représentant des animaux préhistoriques qui auraient survécu sur un plateau perdu de l'Amazonie. C'est le monde perdu qui va d'ailleurs inspirer Spielberg
pour Jurassic Park,
voilà, tout simplement.
Ça, bien sûr.
Donc tout intéresse Conan Doyle et il prend des notes sur tous les sujets possibles et imaginables. On a même des témoignages du fait qu'il se promène dans son jardin avec des brouettes de livres.
Il a même un goût pour le paranormal et pour le spiritisme qu'il va mettre à profit dans la célèbre affaire Agatha Christie dont nous avons parlé il y a quelques
Absolument.
Temps. C'est-à-dire la disparition de l'écrivain. Un jour, Agatha Christie disparaît.
Oui, durant un jour, je crois.
Et évidemment, les journalistes vont se tourner vers qui pour essayer de la retrouver ? Vers Conan Doyle.
Absolument. Et donc,
il est un vieux monsieur à ce moment-là. Hein.
Absolument. C'est un vieux monsieur et donc il va demander un objet ayant appartenu à Madame Christie. Il va aller consulter un des plus grands médiums américains, si mes souvenirs sont bons. Et ce médium, d'ailleurs, dira « Écoutez, je pense qu'elle est en vie et qu'elle réapparaîtra mercredi. » Voilà. Et donc, c'est le jour où, effectivement, il y a deux personnes qui, dans un hôtel, vont retrouver Agatha Christie, qui s'est cachée sous une perruque et qui a pris le nom de la maîtresse de son époux. Et c'est ainsi qu'elle va se présenter au moment où elle est retrouvée.
Il est devenu un grand personnage à ce moment-là. Il a été anobli, tout simplement.
Oui.
C'est quand même pas rien.
Alors,
il est Sir Arthur, maintenant.
Sir Arthur, alors, donc, il y a toute une histoire autour de cela, puisque, en fait, Sherlock Holmes, le héros fictif, a reçu la Légion d'honneur aux alentours de 1896. Et donc, on lui propose d'être anobli en 1902. Sherlock Holmes refuse. Et Conan Doyle a failli faire de même. Puisqu'il se jugeait en quelque sorte un peu indigne de tout cela. Il avait le grand succès du Chien des Baskerville. Il ne voulait pas être décoré simplement pour le succès d'un livre d'un héros qui l'encombrait. Et la raison pour laquelle il a été décoré est une raison assez noble. C'est que lors de la guerre des Bourgs, on a accusé les Anglais d'avoir commis des rapines, des viols, d'avoir utilisé des balles doum-doum. Et il a donc pris des témoignages, aussi bien du côté de l'armée britannique que du côté des Bourgs. Et il a fait un livre très objectif et il a réussi à le faire traduire en 20 langues. Et ce qui a permis de redresser un petit peu le comportement et la perception que nous avions de cette guerre à l'autre bout du monde, dans l'Afrique du Sud.
Encore un aspect inattendu et assez novateur.
Oui,
du personnage.
Et d'ailleurs, il est nommé chevalier dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui est rattaché à l'ordre de Malte, qui est un ordre médical.
Merci beaucoup, Emmanuel Lebray. Votre biographie, Conan Doyle contre Sherlock Holmes, est publiée aux éditions du Moment. Merci.
Merci.
Au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Alexis, une question qu'il nous envoyait via la page Facebook de l'émission, puisqu'Alexis nous écoute depuis le Mexique grâce au podcast. Alexis aimerait savoir pourquoi le dollar est représenté par un S et non par un D, et pourquoi les billets sont verts.
Alors, ça fait deux questions pour le prix d'une, ça. La première question, c'est celle du sigle. Pourquoi ce S barré pour désigner les dollars ? C'est devenu très habituel. D'ailleurs, allons jusqu'au bout et disons qu'aujourd'hui, ce S barré est même devenu de façon internationale un peu le symbole de l'argent en général, au-delà même du dollar. Eh bien, dites-vous que jusqu'au XVIIIe siècle, les Américains ont utilisé la même monnaie que leurs voisins mexicains, les fameux pesos. La pièce la plus répandue était la pièce de 8 reals, qu'on appelait la pillar dollar. Et c'est comme ça d'ailleurs, c'est l'origine du mot. Pourquoi dollar d'ailleurs ? C'était un dérivé du nom d'une autre monnaie qui avait joué un rôle très important dans l'histoire, le fameux thaler. Thaler avait donné dollar dans le parler des Mexicains de l'époque. Ce thaler s'était répandu dans tout l'empire Habsbourg. Et vous savez à quel point les Habsbourg avaient colonisé une partie très importante de l'Amérique. Bref, je ne vais pas trop loin dans mes digressions. Toujours est-il que sur cette pièce, il y avait un symbole qui désignait l'Empire espagnol. C'était les deux colonnes d'Hercule et autour de ces colonnes s'enroulait une banderole en forme de S. C'est-à-dire que vous aviez, si vous vouliez représenter ce qu'il y avait sur les fameux pillards dollars, vous aviez deux traits et puis une sorte de S qui représentait la banderole autour des colonnes. Vous voyez d'où ça vient ? Eh bien, il est très probable que ça, ce soit tout simplement l'origine de cette abréviation de ce sigle pour désigner le dollar. Alors, il y a une autre explication que je trouve moins poétique et entre nous soit dit peut-être un peu moins convaincante, mais qui est possible aussi, c'est qu'on avait coutume d'appeler cette pièce la Spanish Pillar Dollar, justement, et que le S serait l'abréviation de Spanish. Mais à ce moment-là, pourquoi le barré et même pourquoi le barré doublement ? Enfin bon, les deux explications existent. coexistent et je vous laisse le soin de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Quant à la couleur verte de ces billets de dollars, alors ça, j'ai eu l'occasion de vous en parler déjà, hein. On commence à émettre ces célèbres billets verts à partir de 1861. Avant cela, les billets étaient noirs avec des surimpressions en couleur et le problème, c'est qu'il y avait énormément de faux monnayeurs et que c'était une monnaie assez facile à copier. Eh bien, c'est un certain Tracy R. Edson de la compagnie des billets qui va trouver la solution. Il met au point cette encre indélébile verte, très difficile à effacer et très difficile à copier. Et cette encre, elle est à l'origine donc de ce qu'on a appelé le billet vert. En même temps, regardez-le de très près, ce billet vert. Vous verrez qu'il n'y a pas tellement de vert dessus, du reste.